aujourd'hui. Nous parlerons de l'accessibilité de ce qui nous amène ici. Comme nous sommes rassemblés ici, c'est dans une maison. Il y avait, au temps de Jésus-Christ, la synagogue. Jésus-Christ se présentait à la synagogue pour enseigner ce que Pierre et les autres disciples ont continué après lui lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et nous avons des histoires sur la synagogue, sur ce que Jésus-Christ a dit dans la synagogue. Mais il y a plus d'histoires rapportées qui soutiennent notre foi, qui nous apprend à nous approcher de Christ. Il y a plus d'histoires venant des maisons et des lieux inappropriés comme sous le soleil, sur les collines, les montagnes. Et l'histoire de Jésus-Christ, la force de l'histoire de Jésus-Christ a été faite plutôt dans les maisons pour ceux qui cherchent Dieu vraiment. Parce que à la synagogue, comme dans les maisons, il y a toujours des gens qui sont présents, mais y compris même le disciples de Dieu, de Jésus-Christ, qui sont présents aux côtés de Jésus-Christ, mais qui sont des incrédules qui continuent de penser comme ils pensent, croyant qu'ils adorent Dieu. Loué soit Dieu qui accorde le pardon. Sinon, comme dit Jésus-Christ, il n'y aurait personne au jour du Seigneur pour participer à la noce. Les changements dans la vie d'un homme qui cherche Dieu ne peuvent arriver si la personne ne comprend pas ce que veut dire Jésus-Christ, si le cœur de la personne se trompe des doctrines. Aujourd'hui, nous avons la doctrine des assemblées de Dieu, la doctrine des catholiques, la doctrine des presbytériens, la doctrine des pentecôtistes. Quand les gens créent une assemblée, au lieu de prendre la doctrine de Jésus, la première chose que ces gens font pour s'identifier, ils ne s'identifient pas à Jésus-Christ par leur cœur. Mais ils veulent mettre en place une doctrine et parfois même une constitution, comme l'Église évangélique, presbytérienne, les catholiques et autres. Ils ont une constitution. L'État togolais a une constitution. Je voudrais vous dire que toute tentative de ramener le peuple de Dieu sur la bonne voie est très difficile et peu accepte de revenir à la parole de Dieu. Je parlais de la constitution des catholiques, des presbytériens et autres. Voici comment les choses vont se passer devant Dieu. L'à peu près, ce que je pense. Et aujourd'hui, nous allons, le thème de notre message aujourd'hui, c'est Ephphatha. Ephphatha. Pour ceux qui ne savent pas l'écrire, ça s'appelle, ça s'écrit Ephphatha. Ephphatha. C'est-à-dire, ouvre-toi. Ce n'est pas écoute. Ouvre-toi. Je vous prie de m'enlever ce poids du cœur, de m'aider en m'enlevant ce poids du cœur, en écoutant bien le message d'aujourd'hui. Et que chacun aille réfléchir à cela. Et car il n'y a pas pire que de croire qu'on est un homme alors qu'on ne l'est pas. Que de croire qu'on est ce que la Bible appelle homme. Être un homme, ça a suscité même une grande comment on appelle ça? Une grande discussion ici quand j'ai lu dans Pierre. Vous vous souvenez? Amoro. Quand j'ai avancé ça, on dirait que c'était au cours d'un message et nous n'étions pas d'accord. Certains n'étaient pas d'accord. C'était aussi le courage de le dire. Pourquoi? Alors que ce n'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai lu juste une parole de Dieu qui nous s'est adressée. Et que nous soyons d'accord ou que nous ne soyons pas d'accord, la parole de Dieu est là et restera. Tout peut disparaître. Ceux qui ont été prêtres, pasteurs, catéchistes, diacres, monseigneurs, évêques, papes, comment, modérateurs, inspecteurs, tout ce que vous pouvez vous imaginer dans l'Église, ceux qui s'appellent apôtres, prophètes et autres, ils disparaissent, mais personne n'a le courage de prendre la Bible, il faut être téméraire. Pour prendre même la vieille Bible perdue quelque part et aller la brûler, il faut être téméraire. Pour penser qu'une Bible est vieille ou on ne l'utilise plus, et tu as le courage d'aller jeter ça ou non. Personne n'a ce courage. Les Bibles sont comme les animaux que nous voyons dans la nature, les oiseaux qui volent et autres. Et personne ne sait comment ces animaux finissent parce que il est rare de se promener dans la forêt ou quelque part ailleurs de trouver un animal mort. Ce n'est pas une chose commune. Il y a beaucoup de gibiers et d'animaux dans la forêt. Il est rare de rencontrer un animal mort au passé. Ephphatha. C'était Jésus-Christ qui passait. Je vous en prie, écoutez ces choses avec une oreille pour vous-même et non pour quelqu'un. Un cœur pour vous-même et non pour quelqu'un. Et c'est dans Marc 7, Marc chapitre 7, et ces apôtres, ces disciples, mangeaient sans laver les mains. Et Jésus-Christ et les pharisiens s'énervaient, boudaient pour cette infamie, pour quelque chose qui ne peut pas se passer en Israël, que quelqu'un ne lave pas les mains et mange de la nourriture. Et c'est comme tu ne peux pas vivre chez les Hébreux. Je ne sais pas dans les autres ethnies ce que ça donne, mais je pense que c'est la même chose. On est d'accord que tu ne peux pas manger, on ne peut pas être en train de manger chez les Hébreux que tu gênes avec la main gauche. Tu ne peux pas venir avec la main gauche et plonger ta main dans la nourriture. Ils vont cesser de manger. Même si ta main gauche est très propre. Donc, nous avons comme ça des idées reçues, des choses pour nous qui sont importantes et qui viennent même de la Bible. Et donc, pour les pharisiens, c'est de l'impureté du corps, l'impureté des hommes que d'utiliser une main non lavée. Ne pas laver la main veut dire que la personne ne s'est pas purifiée. Et les pharisiens, ceux qui sont du judaïsme, se sont énervés. Et ils se sont dit, mais comment lui peut dire qu'il est le Christ? Comment il peut prétendre dire qu'il est le Christ? Et finalement, les gens qui le suivent sont des gens impurs. Parce qu'ils ne se sont pas lavé les mains. On a appris depuis que la Bible dit qu'il faut se laver les mains. Et ce qui est normal, parce que la loi le dit. La loi dit qu'il faut se laver les mains. Jésus-Christ leur a dit, ce n'est pas ce qui entre. Ce n'est pas ce qui entre dans un homme qui le rend impur, mais ce qui sort. Alors après, il aura cité tout ce qui est la loi. Il dit, c'est plutôt du cœur que viennent les impuretés et c'est ce que et de la pensée. Que viennent les impuretés, ce que je pense, ce que je reçois, je conçois dans mon cœur, je vous ai déjà parlé du cœur, que viennent les impuretés. Et il leur a cité tout ce que la loi, tout ce que la loi dit concernant les péchés. Et il dit que c'est du cœur que toutes ces choses viennent. Il a reproché aux pharisiens de ne pas saisir ce que dit la Bible. Je vous ai dit que la Bible est pleine d'allégories. Quand vous prenez l'Ancien Testament, est fait pardon, de prophéties qui disent ce qui arrivera. Mais aussi d'allégories. Et le Nouveau Testament est plus des allégories et des paraboles. Une histoire qui commence avec la pureté, l'impureté des disciples qui mangent sans se laver les mains. Jésus-Christ a fait des à reprocher aux pharisiens d'observer la tradition des hommes. Marc 7, verset 8. En abandonnant le commandement de Dieu, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et si vous ne lisez pas bien la Bible, il sera. Et si Dieu, le Saint-Esprit, je vous explique pas ce que Dieu veut dire, le Père veut dire, le Fils veut dire, le Saint-Esprit veut vous communiquer, c'est difficile de comprendre. Vous observez vos traditions en abandonnant le commandement, pas les commandements. Nous avons les 10 commandements, nous avons ceci, en abandonnant le commandement. Verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Puni de mort, la mort peut être une mort physique. Cela arrive tout le temps, je le vois. Ça peut être une mort spirituelle. Donc, vous pouvez voir un chrétien qui est puni de mort depuis, qui est spirituellement, ça dit Dieu n'en veut plus. Il peut aller se coucher à l'autel, c'est-à-dire devant l'autel de l'église ou derrière, il peut être dans l'église, il peut mettre ça, il peut vivre dans l'église. Dieu l'a puni de mort et quand ça arrive, c'est fini. Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et vous dites que là, vous dites que vous êtes les responsables de la synagogue, au point où aujourd'hui on appelle les éducateurs ou quoi, mort par main. Et enlevé. Et enlevé encore, on dit Maonunolao, des phrases qui sont très graves. Maonunola. Nunola, Maonunola. Comment vous pouvez être Nunola Namao? Maonunolao. Peut-être encore ça pourrait aller si on dirait Mao Ramay, Nunolao. On dit Maonunolao. Quelqu'un, les hommes, au lieu de chercher Dieu, disent à ceux à qui Dieu communique la parole de Dieu, mort par main. Et au lieu d'aller écouter la Dieu, écoutez seulement la parole de Dieu et mettez ça en pratique. Mais puisque les hommes veulent vivre leur tradition, c'est-à-dire, ils prennent Dieu pour un médecin. Je viens, il me donne de l'ivermectine pour mes vers. Donc après, même si ça coûte cher, je paye. Au point où les gens payent la parole de Dieu, payent l'esprit de Dieu. Ils payent pour. Si je dis paye, c'est comme si Dieu leur vend cela. Ils payent pour. Et ils pensent, certains pensent qu'en allant à l'église, en mettant plus d'argent, la bénédiction sera conséquente. Et Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous, au lieu de chercher à comprendre la loi de Dieu, quand on dit honore ton père et ta mère, lorsque le père ou la mère ont un besoin et qu'ils demandent à leur enfant ou que l'enfant, lui, il se dit ce que le père ou la mère demande ceci et a-t-elle besoin, mais moi, je l'ai réservé pour Dieu. Vous êtes d'accord avec les enfants en ne leur apprenant pas que Dieu a déjà établi que leur bénédiction ne viendra pas à travers ce qu'ils vont donner à l'Église, à Dieu, mais il y a une seule porte qui est fixée par Dieu, c'est la porte du Père et de la Mère, ou de la Mère, des parents. Et vous préférez prendre ce que l'enfant a réservé pour dit avoir réservé pour Dieu, au lieu de lui dire, va plutôt honorer ton père ou ta mère. Et vous détruisez comme ça la parole de Dieu en faisant croître dans le cœur des gens votre tradition que les gens retiennent et finalement les gens font de la tradition et ils sont morts spirituellement ou physiquement, croyant que vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu, vous tuez plutôt les gens. Est fatal. C'est après ça que Jésus-Christ leur a... Les disciples disent qu'eux, ils ne comprennent pas tout, que ce sont des paraboles. Même les disciples ne comprennent pas. Et Jésus-Christ leur dit qu'ils sont vraiment des gens incrédules. Il leur a cité ce que les gens prêchent, qui est la loi. Les gens prêchent dans la parole de Dieu, qui est la loi. Il n'a pas dit que Dieu n'a pas dit ça. Jamais. Il a dit même que c'est bon. Maintenant, dans la pratique, voici ce qui s'est passé. J'aime, parfois je suis émerveillé. J'aime tellement cette Bible et qui, cette parole de Dieu qui surprend. Au moment où toi tu penses à quelque chose, selon ton intelligence, ton cœur, Dieu n'est pas là-bas. Et Jésus-Christ était devant maintenant, après cet événement, ce que Dieu a créé comme événement, c'est que Jésus-Christ s'est retrouvé avec une Cananéenne. Une Cananéenne veut dire, si on sait que Cana est considéré comme le pays qu'on ne peut pas, qui ne peut pas être sauvé, ce n'est pas le peuple de Dieu. Et Israël, c'est le peuple de la bénédiction. Alors, après cet événement, quand Jésus-Christ a dit, oui, vous faites votre tradition au point où quand le père a un besoin, vous dites que non, c'est réservé pour Dieu, c'est comme ça que Dieu a dit, c'est comme ça que Dieu n'a pas dit. Et vous permettez plutôt aux enfants de faire votre tradition au lieu de faire la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ s'est retrouvé avec une Cananéenne qui maintenant plaide pour son enfant. Qui demande de la bénédiction pour son enfant. C'est le premier événement. L'enfant est impur. Elle est pleine. Marc 7, verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, donc pas du tout. Elle est grecque, syro-phénicienne d'origine. Donc, ni son origine, ni sa nationalité, et ne lui apportait aucune assurance pour recevoir aucun droit devant Dieu. Elle le pria, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. La question a commencé avec des Israélites qui ont droit à la bénédiction, qui considéraient que les disciples, donc ceux qui sont encadrés par Dieu, par Jésus, ne lavaient pas, ne se lavaient pas les mains, donc étaient des gens impurs. C'est ça l'objet de la discussion. Pourquoi, si les fils de Dieu peuvent être avec des impurs qui ne se lavent pas les mains? Jésus-Christ est allé plus loin, il a dit que vous laissez le commandement de Dieu et vous prêchez plutôt ce que c'est que votre tradition, croyant que c'est ça la parole de Dieu, en vous appuyant sur la parole de Dieu. C'est ce que les gens ne voient pas. C'est là où se trouve le risque de tomber devant Dieu. En vous appuyant sur la parole de Dieu, vous dites que si un parent a un besoin et que l'enfant dit que c'est réservé à Dieu, vous lui permettez de le dire et de réserver ce que l'enfant a à Dieu. Et c'est comme ça que vous tuez les enfants et croyant leur donner Dieu, vous leur avez donné votre tradition. Et puisque ils prêchaient dans la synagogue, donc il était aussi, Jésus-Christ avait accepté aussi d'être de ceux qui sont de la synagogue de la Judée, il est aussi d'Israël, descendant de Juda, adorant dans la synagogue. Quand les Samaritains, les Israélites, les autres Israélites allaient adorer sur la montagne, on a vu dans Jean 4 comment adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est la même question qui revient aujourd'hui. Et donc, il leur a récité les commandements de Dieu qu'il faut suivre. Bien sûr. Mais pour leur dire comment Dieu se manifeste, qu'est-ce que Dieu veut? La première chose, c'est qu'il a rencontré une Cananéenne qui lui a demandé de purifier son enfant, sa fille qui était pleine de mauvais esprits. Et Jésus-Christ lui a dit, il n'est pas permis qu'on donne la nourriture des enfants. N'oubliez pas que Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous permettez aux enfants de périr en ne faisant pas la volonté de leurs parents. Et il rencontre quelqu'une qui n'a aucune origine israélienne. Et il a dit, mais il n'est pas permis qu'on donne la nourriture des enfants aux chiens, la nourriture des Israéliens, des Israélites, à ceux qui ne sont pas, aux Grecs et aux Syro-Phéniciens. Non, ce n'est pas permis. Et la femme a répondu, puisque les chiens aussi sont quand même dans la maison et sont au pied de leurs éleveurs, de leurs patrons. Ils pourraient au moins ramasser les miettes. Je ne cherche que les miettes de ce qui est donné aux enfants. Or, les enfants ont refusé même la nourriture. N'oubliez pas ceux qui étaient invités à la noce. Les enfants ont refusé la bonne nourriture en parlant de Dieu d'une autre manière, en croyant que Dieu est dans ce que eux ils pensent. Et Jésus-Christ lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Parce que au-delà de toute déclaration, voici une femme qui reconnaît que Jésus-Christ a la capacité de chasser ce qu'on appelle un démon, qui est plutôt une cause d'impureté. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas lavé les mains, ce n'est pas parce qu'on a donné à un parent ce qu'il doit. Non, on n'a pas donné à un parent ce qu'il doit mériter et qu'on a donné ça à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a lavé les mains, on n'a pas donné à un parent ce qu'il doit mériter et on dit que c'est à Dieu. Ça, ce sont plutôt des choses qui amènent à la mort. Mais parce que toi, tu sais que Israël a une grande richesse et il a une nourriture sur la table au point où on peut la manger pour laisser tomber des miettes, qu'on permette à moi qui ne suis rien, qui ne suis que une chaîne, de prendre ces miettes-là. Je ne demande que les miettes. Tes miettes pourraient suffire pour que mon enfant soit libéré de l'esprit mauvais et soit pleine de l'esprit saint. Et Jésus-Christ lui a dit, parce que ton cœur a retenu, a accepté cela et ta pensée puisse formuler une phrase comme cela qu'on appelle la parole, à cause de cette foi en Dieu que tu ne connais pas, voulant même rester sous la table pour profiter de la bénédiction de Dieu, ton enfant est guéri. Jésus-Christ n'est pas allé imposer la main à l'enfant. Et l'enfant a été délivré. La fille a été délivrée de son impureté. Sur simple parole, on ne l'a pas lavé. Sur une simple parole de Dieu. Mes amis, après cela, à ce même Jésus, on lui a amené un sot qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Après cela, on lui a amené un sot qui avait des difficultés à parler. Une grande allégorie. Alors on amena quelqu'un qui est sot et qui a des difficultés pour parler. Pourquoi ce passage est important dans la parole de Dieu, dans la Bible? Comment peux-tu avoir une parole comme celle de la dame cananéenne si tu n'as jamais entendu parler de Dieu? Comment? Comment peux-tu parler si tu n'entends pas? Comment peux-tu formuler des phrases si tu n'entends pas bien? Comment peux-tu formuler des phrases raisonnables si tu ne sais même pas de quoi? Je ne sais pas si vous vous imaginez un sourd. Pourquoi il fait waouh, waouh, waouh? C'est le peu qui lui arrive, qui répète. Ce n'est pas qu'il n'a pas une langue pour parler. C'est comment il entend les choses qu'il répète. Et on dit qu'il est muet. Ça vient du fait qu'il ne peut rien répéter puisqu'il n'a rien entendu. C'est le bruit qui lui parvient dans les oreilles qu'il vous rend. C'est la parole que tu as dans ton cœur que tu rends comme adoration à Dieu. Comment veux-tu adorer Dieu si ton cœur n'est pas plein de la parole sainte, de la parole de Dieu, telle que Jésus le dit ici, et que ton cœur est plein plutôt de la tradition qui vient qui vient de la Bible. Alors, Jésus-Christ, puis à part l'un de la foule, est parce que ce que Jésus-Christ fera ne plaira pas à l'homme. S'il le fait dans la foule, tout le monde va lui crier dessus. Or, c'est la seule manière de délivrer pour délivrer cet enfant. Pour se délivrer cet homme sourd et muet, Jésus-Christ sait que tout de suite, l'autre était délivré par ce qui venait de son cœur. Voici quelqu'un qui n'a rien dans son cœur parce qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, et qu'il faut une façon spéciale pour que celui-là soit délivré. La délivrance, cette forme de délivrance ne peut arriver que par une façon de faire de Dieu. C'est de lui communiquer quelque chose de spécial. Mais cette communication ne peut se faire devant quelqu'un. Ça doit être quelque part où personne ne voit Jésus-Christ et le malade. Jésus-Christ prit à part l'un de la foule. Ce malade lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive, qui, qu'un pasteur inspiré de Dieu, à qui Dieu a demandé de le faire, fasse quelque chose comme ça. Peut-être que s'il a la chance que le dimanche prochain, les gens ne sont pas encore décidés, il y aura au moins la moitié qui aura quitté l'église et jusqu'à la fin du mois, peut-être si sa femme, imaginez que le pasteur et la malade est une fille. Peut-être que sa femme même a pris sa valise et est partie. Et c'est pourquoi il y a des choses que Dieu permet, mais qu'il demande de faire l'un de la foule qui risque de dénigrer Dieu, de parler mal de Dieu, alors que Dieu voudra délivrer définitivement. Cet homme sourd et muet représente les chrétiens. Cet homme aussi est dans ce pays dans lequel on prêche Jésus-Christ, dans ce pays dans lequel la Cananéenne, Syro-Phénicienne, grecque, aussi a entendu parler de Jésus-Christ pour venir demander la purification de sa fille. Mais cet homme n'a jamais entendu. Son cœur ne porte rien. Ses oreilles n'ont jamais écouté. Alors il a amené l'un de la foule, mis les doigts dans les oreilles de cet homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Levant les yeux au ciel, levant les yeux vers Dieu, Jésus-Christ soupira et dit, Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. fatale. Ouvre-toi. L'église est fermée, elle est sourde et muette, elle est sourde, ne comprenant rien. Les chrétiens sont fermés, étant en train de faire, de parler d'un Dieu, d'une approche de Dieu qu'ils ne maîtrisent pas. Comment voulez-vous être plus royaliste, plus que le roi? Vous avez découvert la parole de Dieu, on vous dit que c'est le Saint-Esprit qui vous révèle comment vous devez être délivré, comment vous devez être, vous devrez, par quel moyen votre cœur changera et votre bouche pourra prononcer des paroles, même si vous êtes un chien, pour obtenir la bénédiction de Dieu. Mais la dureté du cœur, la tradition fait que il faut même pour vous, pour sortir certains de cette difficulté, les amener hors de la foule. Et c'est Dieu qui le décide ainsi. Je ne sais pas si tu es sourd, muet, et si toi aussi tu vois ta position comme ainsi et que Dieu voudra te délivrer et que tu as des doutes ou que tu as des difficultés. Mais celui qui est sourd-muet, on n'a pas dit qu'il s'est défendu. Lui n'a fait que suivre la scène telle que Jésus-Christ la menait. Et quand Jésus-Christ a dit, ouvre-toi, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Ouvre-toi veut dire que par cette pratique de Jésus-Christ, la personne a reçu dans son cœur et dans son intelligence une façon divine de vivre et peut parler parce que ses oreilles, et que Bobometo, et que Bobo me dit, son cœur, ses oreilles, son cœur est maintenant ouvert, ses oreilles sont ouvertes. Et qu'il a reçu, en recevant cette salive de Jésus-Christ, il a reçu de parler de façon claire. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le recommanda, plus il le publiait. Il était dans le plus grand étonnement et disait, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Ce n'est plus un sourd, ce n'est pas un muet. Il voit maintenant que tous les sourds. Dans l'église se trouvent plusieurs sourds. Et tant qu'il n'y aura pas de fata prononcé pour eux, tant que Jésus-Christ ne les amènera pas hors de la foule, il n'y a pas pire que de ne pas savoir, de ne pas savoir où se trouve le bien. N'oubliez pas que ce qui a perdu le monde, ce qui a perdu l'homme, empêchons-le de prendre le souffle et de connaître le bien. C'est la connaissance du bien et du mal. C'est cette façon de traduire la parole de Dieu. Croyant qu'on traduit bien la parole de Dieu, finalement, cette connaissance du bien, cette approche que nous avons de la connaissance de Dieu a perdu beaucoup de gens. Ouvre-toi pour avoir la parole révélée de Dieu, pour avoir une compréhension correcte de ce que c'est que Dieu et sa parole. Comment pourras-tu recevoir la bénédiction de Dieu si tu ne t'ouvres pas et que tu restes dans les traditions, dans la connaissance de Dieu comme les pharisiens, chers frères et sœurs en Christ, et fatal. En choisissant ce nom pour la radio de l'Église évangélique presbytérienne du Togo, la question est au-delà de l'écoute. La question est au-delà de l'écoute. Les protestants, s'ils en ont pleinement conscience, sont en train d'annoncer aux chrétiens que ce qui fait un bon chrétien, c'est un cœur ouvert. Des oreilles qu'ils entendent, un cœur ouvert et une langue qui évangélise, qui parle bien après avoir reçu de Dieu, de Jésus-Christ, sa salive, qui est une manière spirituelle. Lorsque tu as la chance de subir, si Dieu te permet que tu subisses ce processus, alors tu verras les conséquences heureuses après avoir laissé Dieu faire, après avoir laissé Jésus-Christ faire, te guérir. Mais le problème, c'est que beaucoup, en regardant la foule, ou bien en considérant leur tradition, ne laisseront pas Jésus-Christ faire et resteront pharisiens, judaïstes, sans jamais être enfants et seront là quand les chiens seront en train de ramasser les miettes. Ils seront là, invités à la table du Seigneur. Parce que croyant que cette table n'est pas sainte, selon eux, quand Jésus-Christ invitera d'autres personnes de n'importe quelle nature à la table du Seigneur, la parole de Dieu, quand je demande aux gens, est-ce que tu as la foi? Vous savez, j'aime bien que les Français et les Anglais ont trouvé des mots différents. I believe, je crois, I have the faith, j'ai la foi. Et ils ont trouvé des mots différents, alors que les évêques me connaissaient. C'est difficile pour nous, parfois, de savoir ce qu'on appelle la foi. Je ne connais pas, c'est pas très bien comment on dit, je crois et j'ai la foi en kabyé ou dans les autres langues. Mais dans la langue de ma mère, c'est un seul mot aussi. Je crois, il désire. Donc, et on dit, oh, sans la foi, dans Hébreux 11, verset 6, il dit, Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Si le sourd muet au moins n'avait pas cru que Dieu existe, lorsqu'on l'amenait et que Jésus-Christ était en train de lui faire cette opération, s'il ne le croyait pas que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ce monsieur n'aura jamais. Vous voyez un monsieur qui est amené quelque part, et puis Jésus-Christ qui touche sa langue avec sa salive, vous allez dire, mais ça là. En tout cas, nous aurons tous les qualificatifs possibles. Or, il est dit dans la parole de Dieu que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelle est cette histoire-là? Il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Et si on n'a pas entendu, on n'a pas la foi. Il faut que tu entendes, tu es sourd-muet, nous sommes des sourds-muets. Pour ceux qui ne croient pas, ceux qui prennent encore Dieu au premier degré, ceux qui prennent encore Dieu au premier degré, que Dieu fasse que vous compreniez ce que Dieu fait. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, j'ai parlé ce matin de trois personnes, de quatre personnes qu'on peut appeler des enfants. D'abord, les disciples qu'on considérait comme des enfants de Jésus-Christ, qu'on jugeait impurs parce qu'ils ne se lavaient pas les mains. Jésus-Christ qui parle des enfants qui devaient donner des choses aux parents et qui pense que c'est trop pur pour qu'on puisse donner ça aux parents. Je donne ça à Dieu, c'est ce qu'on a dit. Et que les prédicateurs, ceux qui sont leurs conducteurs aussi, sont d'accord avec eux. Et d'une fille qui était impure, pleine de mauvais esprits, dont l'origine est syro-phénicienne et de nationalité grecque, et d'un homme qu'on a amené, qui est aussi un enfant, qui est fermé, fermé, et qu'on doit ouvrir. Jésus-Christ ne parle pas de sourd et muet. C'est un homme fermé, fermé à la parole. Comment peut-il avoir la foi s'il n'a pas entendu la parole de Dieu? Comment peut-il être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi? Ouvre-toi. Jésus-Christ n'a pas guéri un malade charnel. La chirurgie, la pratique de Jésus ici est au-delà de la guérison de la mère de Pierre, qui avait une fièvre. C'est une expression, un symbole, une allégorie qui représente toute l'Église qui est sourde et muette. Et pour que celui-là puisse laisser une histoire pour les hommes, un nom qui est même ignoré par plusieurs églises que les protestants ont ressuscité ici au Togo. Ephphatha. Jésus-Christ l'a amené hors de la foule et lui a fait ce qu'on doit lui faire pour que la personne devienne une personne bénie au point de bénir d'autres personnes par le fait qu'il était fermé et maintenant il est ouvert. Si nous avons compris ces choses, Hébreux 10, verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Pourquoi Jésus-Christ, pourquoi l'Épître parle ici de cœur purifié d'une mauvaise conscience? Si cette guérison devait être faite dans la foule, Ceux qui ont la prétendue, une prétendue bonne conscience empêcheraient Jésus-Christ de le faire par ce moyen et seront tombés eux-mêmes parce qu'ils ont vu comment Jésus-Christ a fait la pratique. Parce que ceux-là pensent avoir la bonne conscience alors qu'ils ont une mauvaise conscience. C'est ce que le Seigneur dit aux pharisiens. Ils ont une conscience de la parole de Dieu, mais Jésus-Christ leur dit que ça, là, c'est la mauvaise conscience au point où ce que les enfants devaient donner aux parents, ils vous disent, c'est pour Dieu. Je réserve ça pour... Et vous dites, vous leur faites croire par vos traditions que c'est de la bonne conscience. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je vais finir avant de lire le dernier verset. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je vais vous poser la question maintenant. Est-ce que vous croyez que ce sourd muet était fou? Est-ce que le sourd muet, quand Jésus-Christ l'entraînait seul hors de la foule, est-ce que vous pensez que le sourd muet, lui, ne connaissait pas le danger qu'il y a d'être avec un autre? Est-ce que vous avez, vous, est-ce que vous avez une conscience, je ne sais laquelle, qui vous dit que au moins le sourd muet regardait. Il n'entendait pas, mais il regardait comment des gens malades se levaient. Comment des gens, est-ce que ce sourd muet avait un témoignage de celui qui l'entraînait hors de la foule? Il était aussi dans la foule, il voyait. Mais il ne pouvait même pas dire, je suis sourd, je suis muet. Lui ne pouvait même pas adresser une demande. Alors, parfois, c'est Dieu lui-même qui vous amène à la délivrance. Parfois, ce sont les autres qui vous amènent à la délivrance, à la porte de la délivrance. Ce qui a été le cas de ce monsieur quand on l'a amené devant Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez, est-ce que selon vous, ce sourd muet attendait quelque chose de Jésus-Christ? Est-ce que ce sourd muet a fait confiance à Dieu dans son traitement, quel que soit le moyen par lequel ça devait arriver? Et ce sourd-muet attendait quelque chose de Dieu. Parce qu'il a vu. Il n'a pas entendu, mais il a vu. Mais lui ne peut pas. Il est fermé, il ne sait même pas de quoi on parle, mais lui aussi voit. Est-ce que ce sourd-muet avait une assurance que... Et when Sarah, ah when Agnello, et when Sarah, ah when Agnello. Est-ce que ce sourd muet qui n'avait jamais chanté parce qu'il n'avait jamais entendu avait une assurance que si je vois des gens sauter de guérison, moi aussi, aujourd'hui, je m'abandonne entre les mains de Jésus-Christ, que ce soit par sa langue, que ce soit par ses mains, ses doigts, quel que soit ce qui doit arriver, que ce soit ainsi. N'abandonnez donc pas votre assurance. Vous avez vu et vous avez l'assurance et vous êtes en train de prendre une mauvaise conscience ayant plutôt, pratiquant plutôt la tradition des hommes. La tradition qui vient de la loi, au lieu de pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle vous a été donnée, au point où certains ont reçu des révélations. Dieu a conduit certains lui-même vers ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent penser, mais ils ont abandonné leur assurance parce qu'ils ont une conscience mauvaise qui n'a pas été purifiée, ils n'ont pas été lavés. Ils ne peuvent pas être lavés d'une eau pure qui est la salive du Seigneur Jésus-Christ. Je finis maintenant. Quand vous avez cette assurance et que vous passez par ce moule et ce processus de guérison spirituelle, parce que vous avez reçu peut-être à travers des parents, une famille ou quoi, quelque chose qui est pour vous un problème qui vous empêche d'être réellement un chrétien, une chrétienne, alors que vous pensez que vous êtes chrétien, chrétienne, n'abandonnez pas votre assurance lorsque Dieu vous appelle ou Dieu vous demande d'avancer. Verset 23 de Hébreux 10. Retenons fermement la profession de notre espérance. Si vous avez accepté et que vous êtes passé, vous faites confiance à Dieu, cette assurance vous est arrivée et que vous faites confiance à Dieu, alors retenez fermement la profession de votre espérance. Est-ce que le sourd-muet espérait être guéri? Alors, il faut que le sourd-muet soit d'abord conscient qu'il est. Il a des faiblesses. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est en train de l'entraîner hors de la foule. Il a l'assurance qu'il sera guéri. Il espère. Voici ce qui est dit concernant la ferme espérance que nous devons avoir. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement. Si tu fus Dieu, tu fus Jésus-Christ qui t'amène hors de la foule, tu fus ton assurance, tu ne retiens pas ton assurance, tu y as pris. Il n'y a rien de pire que l'ignorance. L'ignorance tue. Celui qui te fait la promesse, c'est Jésus-Christ qui te conduit hors de la foule. Mais pourquoi il est en train de le conduire hors de la foule? C'est Jésus-Christ qui t'a amené loin de la foule, qui veut te guérir à travers une pratique qui est celle de Dieu. Une pratique différente de ce que tout le monde peut penser. Pour que tu sois complètement une source de bénédiction pour les hommes et que tu ne sois plus un péché et une leçon pour les autres. Si tu as cette assurance, alors garde l'espérance fermement. Lorsque Jésus-Christ aura fini, je ne sais pas combien de temps, si tu arrives à le suivre, pardon, si tu arrives à suivre Dieu et que tu as une assurance et que tu t'es présenté Jésus-Christ en voulant te guérir et passer par cette chirurgie, parfois la chirurgie pour certains c'est tellement difficile, douloureux. Mais si tu arrives à cette chirurgie, alors retiens fermement l'assurance, car celui qui a commencé l'œuvre avec toi est fidèle. Il ne s'arrêtera pas en chemin. Il te transformera Ephphatha. Tu seras ouvert, tu seras ouverte, plein de l'Esprit de Dieu et professant aux autres l'assurance et l'espérance, la foi qu'ils doivent avoir en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.